Vous êtes à l'écoute de CKRL 89.1. On est vendredi 13 avril 2012. Vous écoutez La vie en BD. Écoute de la vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver ici sur les ondes de CKRL. Et grosse période, d'ailleurs, pour la bande dessinée. Il y a beaucoup d'activités, mais en même temps, ça fait pas nécessairement que notre émission sera plus remplie ou moins remplie, malheureusement. On aimerait bien que ce soit le cas. Il faut dire qu'au moment où on se parle du côté du Palais Montcalm, il y a dévoilement des gagnants des prix BDIS Causa 2012. On vous tiendra bien entendu à jour un peu plus tard dans l'émission, savoir donc qui a obtenu ces récompenses du milieu de la BD québécoise. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler les artistes finalistes. On parle du prix Réal Filion, auteur québécois, scénariste ou dessinateur qui s'est le plus illustré avec son premier album professionnel. Alors les nominés dans cette catégorie-là sont Michel Hellman pour l'excellent Mile Hand chez Pow Pow, également Fred Jourdain qui a offert lui le Dragon Bleu chez Alto, très bel album également, et Claude Auchu, Une année en quarantaine aux Intouchables, un album que j'ai pas eu l'occasion de lire, mais on en a dit beaucoup de bien également. Sinon, le prix de la Ville de Québec pour le meilleur album de langue française publié au Québec, alors ça c'est important de spécifier, 5 nominés dans cette catégorie-là. On parle de Radisson, tome 3, Coureur des bois de Jean-Sébastien Bérubé. Vous savez, c'est cette relecture-là, BDS-que de l'autobiographie de Radisson. Très belle bande dessinée. Fond du trou également de Jean-Paul Hyde, qui est sorti à la Pastèque l'année dernière. Album conceptuel vraiment osé, là, où, dans le fond, l'auteur s'est donné comme objectif, comme défi, dans le fond, d'intégrer à chaque page un trou, puisque pour ceux qui ont vu visuellement l'album, il y a littéralement un trou là au milieu du livre, et donc ce qui fait qu'à chaque coin de 10 cases environ, selon l'architecture évidemment des planches, eh ben l'auteur doit intégrer ce trou-là, doit jouer avec ce trou-là. Alors c'est bien intéressant de voir ce qu'il a réussi à faire avec ça. Une année en quarantaine qui se retrouve également dans cette catégorie. Motel Galactique de Francis Desharnais et Pierre Bouchard chez Pow Pow. D'ailleurs, je suis en train de lire le deuxième, et pour l'instant, ça semble être parti pour être aussi sympathique que le premier. Également, Polo Park de Michel Rabagliati, également à la Pastèque, évidemment, Rabagliati qui, à chaque album, a réussi à faire mouche. Sinon, il y a le prix aussi Albéric Bourgeois, meilleur album de langue française publié à l'étranger par un auteur québécois, dessinateur ou scénariste. Alors ici, on parle donc d'auteurs québécois publiés essentiellement par des éditeurs européens. Il y a le Stitcha, tome 1, d'Iris Esvian, le tome 2 qui est arrivé il y a quelques temps d'ailleurs en librairie. Chronique de Jérusalem, évidemment, Fauve d'art à Angoulême, de Guy Lelille. Et également, Les Nombris, le tome 5, un couple d'enfer de Delaf et Dubuc. Donc, trois excellentes séries et trois beau représentant d'ailleurs de la BD québécoise ou de BDistes québécois ou du Québec en BD, interprétez ça comme vous le voulez, du côté de l'Europe. Vous avez aussi le prix Maurice Petit-Didier, c'est le coup de cœur en fait du jury pour un album francophone publié à l'étranger. Alors les 5 albums qui ont été retenus par le jury sont Les Ignorants, Étienne Davodeau chez Futuropolis, il y a quelques-uns de nos collaborateurs qui vous en ont parlé, un album documentaire en récit d'une initiation croisée, un spécialiste du vin qui s'initie à la BD, un BDiste, c'est Étienne Davodeau qui s'initie au vin. Et donc, on fait des parallèles entre les deux. Il y a Blast également, le tome 2 de Manu Darsenet. Très, très belle série. Paulina de Bastien Vivès, poétique, génial à mon sens, récit. Autour des relations entre le maître et l'élève, on vous en avait parlé. En fait, la plupart de ces albums-là seront retrouvés dans les coups de cœur des collaborateurs en janvier dernier. Abibi également, de Craig Thompson, lui aussi chez Casterman. Très, très bel album, encore une fois. Ici, c'est un album anglophone, mais comme on en jasait avec Thomas Lecôté il y a quelques temps, on se permet aussi des traductions dans ces cas-là. Et vous avez Quai d'Orsay, tome 2, d'Abel Lanzac et Christophe Blain chez Dargaud. Belle réinterprétation des... coulisses politiques autour du conflit en Irak et de la relation entre la France et les États-Unis. Bien entendu, c'est pas nécessairement comme ça que ça s'est passé, mais j'adore ce type de récit qui nous entraîne dans les coulisses politiques à grands coups, certes de caricature, mais derrière la caricature, on sent qu'il y a quand même un fond de vérité. Alors, véritablement, là, un album à découvrir. Sinon, ben, comme on le disait pour l'émission de cette semaine, petit flou quant à qui on aura, qui on pourra avoir, évidemment, puisqu'il y a beaucoup d'activités ce soir, les auteurs qui sont à gauche et à droite. On espère notamment porter un petit coup d'œil sur le front tome 5 avec Julien Paris-Soleil, qui devrait être avec nous un peu plus tard aujourd'hui. On va également porter un regard tout à l'heure avec Thomas-Louis Côté sur le Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Un coup d'œil sur la programmation générale et sur le 25e anniversaire de l'événement. Alors, Thomas-Louis, qui nous a accordé une entrevue un peu plus tôt cette semaine, avant de se lancer dans le marathon. Alors, il sera avec nous virtuellement ce soir. Et également, on portera quelques coups d'œil là, sur des récentes parutions d'albums, puisqu'il faut quand même se trouver aussi de quoi se mettre sous les yeux côté lecture. Alors voilà, c'est le menu pour cette semaine. Et on vous reviendra tout à l'heure également, je le disais, avec les résultats de ces prix BDIS Causa. Alors, un petit extrait, tiens, pour se mettre en oreille, un petit extrait de la formation Qualité Motel qui sera en spectacle ce soir dans le cadre du Festival de la bande dessinée québécoise, le spectacle 25e anniversaire. On écoute un petit extrait de la pièce Ansel Gretel. Extrait donc de Qualité Motel. Ça donne une idée. Il faut dire chaque pièce en fait une collaboration avec un artiste différent. Alors on aura assurément quelques styles qui tourneront autour de ça au cours de l'émission et qui exploreront également d'autres univers autour de tout ça. Alors, on est toujours en attente pour Julien Paris-Sorel de Front Froid. On lui parlera peut-être un peu plus tard ce soir. Et sinon, petit commentaire au passage concernant une BD sur laquelle je suis tombé tout récemment, enfin un peu par hasard, ce genre de BD, de laquelle on n'attend rien de spécifique et de laquelle on est agréablement surpris en lisant le résultat. Il s'agit de la série Les Brigades du Temps, tome 1, en fait, nouvelle série de Bruno Duhamel. Il faut dire que le contexte de départ n'est pas nécessairement nouveau. En fait, l'idée du retour vers le futur, du voyage dans le temps, des conséquences de changements temporels. Et dans ce cas-ci, en fait, on pose la question, et s'il y avait des gens mal intentionnés qui essayaient de changer le cours des choses, de changer le cours du monde à leur avantage, en allant jouer avec l'histoire, en allant jouer avec des événements historiques. Et qu'une fois que les événements historiques étaient changés, on avait deux options, soit aller avant pour essayer de rectifier la chose, soit aller après pour ramener donc la ligne du temps à son chemin prévu pour ne pas trop altérer l'histoire. Exemple, dans le tome 1, justement, de cette série qui s'appelle 1492 à l'Ouest, rien de nouveau, eh bien, il y a un de ces agents méchants qui influence Christophe Colomb et qui l'amène, plutôt que d'arriver à l'île où il était censé arriver dans l'histoire, arriver simplement un petit peu plus bas, chez des peuplades qui sont beaucoup moins accueillantes, bien au contraire, en fait, qui sont assez guerrières et qui, au moment de son geste symbolique du planter du drapeau pour la prise de possession, eh bien, qui le tue à coups de flèche. Et donc, ce qui fait que tout l'équipage qui n'est pas préparé à ça quitte, les bateaux se sauvent, entre guillemets, et finalement retourne vers le Portugal ou l'Espagne, en fait. Petit problème dans mon interprétation historique côté mémoire. Et bref, donc, de quelle manière on peut rectifier ce tir-là et s'assurer que quelqu'un va être en mesure, pour l'Europe, de découvrir l'Amérique, c'est un peu l'enjeu de cette histoire-là. Donc, côté récit, on le voit, le point de départ est intéressant. L'univers dans lequel tout ça se place est également bien expliqué. Il n'y a pas de confusion possible quant à ça, donc ça reste très clair, même s'il y a une belle part de mystère à savoir qui sont ces vilains, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils le veulent, ça n'est pas dévoilé non plus. Donc, il y a cette part de mystère-là qui reste, mais le récit demeure donc très clair, très facile à suivre, très agréable à suivre également. Et parallèlement, donc les personnages qui sont toujours un peu stéréotypés aussi, il faut dire, je le disais dès le départ, donc la prémisse est intéressante, c'est bien fait, mais on ne réinvente pas la roue avec cette bande dessinée-là, cela dit. Donc, des personnages qui sont un peu caricaturaux, la brute, le jeune qui sait pas trop dans quoi il se lance, qui se retrouve un peu dans cette situation-là. Encore une fois, pour des raisons logiques, on trouve quand même une explication à l'incompétence relative des héros qui deviendront évidemment compétents. Là. Comme je le disais, je vends pas de punch là-dedans. Je pense que c'est le genre de choses qu'on sait quand on commence à lire la BD. Mais par contre, on les retrouve, ces stéréotype recyclé là de l'aventure fantastique avec quand même un réel plaisir. Le duo est classique mais plaisant. Le saut dans le temps apporte un lot d'exotisme. Il y a un petit quelque chose d'agréable aussi à l'intérieur de ça. Et ça se termine avec une belle ouverture vers un deuxième tome. Il faut dire que ce qui est prévu, c'est un diptyque. Évidemment, on imagine que c'est un premier diptyque. Si ça marche bien, peut-être qu'il y en aura d'autres parce qu'il y a aussi quand même là de quoi exploiter de manière agréable dans cette BD. On a l'impression que les gens qui l'ont fait se sont amusés. Donc, ce qui fait que ça devient plus charmant pour nous aussi et on s'amuse également à l'intérieur de ce récit-là. Donc, le dessin est standard, le récit est standard, mais tout est bien ficelé. Genre de BD où on se dit, waouh, je reconnais plein d'éléments, mais je les retrouve avec plaisir. Et c'est loin, évidemment, d'être une mauvaise chose. Alors, si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, une BD qui se lit rapidement, une BD qui va plaire aussi, j'imagine, à un public un peu plus jeune, j'en suis pas mal certain. Alors, peut-être à voir. En fait, Bruno Duhamel, Les Brigades du Temps, tome 1, 1492, à l'Ouest, rien de nouveau, ça c'est chez Dupuis. Et on retourne maintenant avec un extrait de Qualité Motel, une pièce qui s'appelle Kizou Kizou, et au retour on jase avec Thomas-Louis Côté.
Yeah.
vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89.1. On vient d'entendre une pièce de qualité Motel et c'est pas par hasard qu'on vous propose cet artiste comme choix musical, comme sélection musicale cette semaine, puisque c'est en lien avec le Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Enfin, on pourra voir la formation ce soir à compter de 22h au Musée de la Civilisation. Ça risque d'être une soirée assez enlevante autour du 25e anniversaire de cet événement. Et pour explorer justement les tenants et les aboutissants de cette 25e édition du festival, eh bien, on est en compagnie de son directeur général, Thomas-Louis Côté. Bonjour.
Bonjour.
Et justement, 25e anniversaire, c'est quand même pas rien. Là. C'est un jalon extrêmement important, on imagine, là, pour le festival.
Oui, mais par rapport aux événements de bande dessinée au Québec, en général, il y en a peu qui ont duré dans le temps. Celui qui se rapproche le plus de nous est le rendez-vous de la bande dessinée de Gatineau qui a arrêté après sa 10e année, mais qui est en pause, qui devrait revenir l'an prochain. Mais il reste que 25 ans pour un événement de bande dessinée, c'est quand même très long.
Et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui explique la durabilité peut-être du festival?
La qualité. Non, mais c'est dans le fond, c'est l'enthousiasme des gens qui l'organisent. Je pense que d'année en année, que ce soit moi ou les directeurs qui étaient là avant moi, c'est toujours des gens qui sont quand même passionnés par l'événement et qui vont vouloir que ça perdure. Donc, on aime organiser l'événement, on aime recevoir aussi les auteurs, puis faire la promotion de la bande dessinée. Donc, je pense qu'on s'amuse à travers cet événement-là et c'est pour ça que ça dure.
Et nécessairement, en fait, on parle de travail, d'investissement personnel et professionnel, parce que faire un festival, c'est pas simplement les quelques jours la semaine que ça va durer, c'est une action pratiquement sur un an là, en amont pour côté préparation.
On travaille à l'année, dans le fond, sur l'événement, que ce soit pour recruter des auteurs qui viendront nous visiter, beaucoup pour le financement, ce qui est quand même le nerf de la guerre là, dans à peu près tous les événements. Donc, on travaille à l'année pour essayer de s'assurer que le festival ait lieu et la programmation. On l'a bâti aussi en récoltant des idées d'exposition, par exemple, ou de rencontres ou d'activités durant l'année.
Et on l'a vu, Thomas-Louis, au fil de tes collaborations, notamment ici à l'émission, tu es amené aussi à te rendre parfois à Angoulême, à Bordeaux, à Lyon, aller voir un peu, aller nouer des liens avec les festivals à l'extérieur, autant qu'à Gatineau aussi, où tu as assisté autant aux rencontres de relance, autant au festival lui-même dans les dernières années.
Oui, mais je pense que c'est important de sortir de Québec pour faire du réseautage, que ce soit d'aller à Montréal, d'aller à Gatineau ou d'aller une ou deux fois par année, que ce soit à Angoulême ou dans d'autres événements. L'idée est d'aller se nourrir de ce qui se fait ailleurs, mais aussi de rencontres qu'on fait en festival. Cette année, on a des gens comme Charlie Adler et Patrick Sobral, qui sont deux grosses vedettes de la bande dessinée. Bien, c'est des gens qu'on a rencontrés ailleurs avant. Et c'est de ces rencontres-là que sont nés leurs venus, dans le fond, parce qu'on essaie de tisser des liens, puis ces liens-là sont profitables.
Et d'ailleurs, avec Charlie Adler, qui est l'un des auteurs de la très populaire série Walking Dead, c'est un peu... On parle de BD francophone, mais dans ce cas-ci, c'est plus un monstre de la BD en général qui est publié en anglais, qui est traduit en français.
Exactement. Ben nous, depuis quelques années, on reçoit même des auteurs espagnols, on a reçu des auteurs d'Argentine. On ne se limite pas à la bande dessinée francophone au sens où l'auteur est francophone. On parle de la bande dessinée francophone incluant la traduction. Donc, ça nous ouvre beaucoup plus de portes. Et je pense que c'est intéressant d'essayer de voir ailleurs, parce que maintenant, la bande dessinée s'internationalise beaucoup. Si on regarde des gens comme Charlie Adler publie une bande dessinée, c'est Soleil, en français directement. Donc, il y a des choses qui se font un peu partout. Les Espagnols sont traduits beaucoup aussi. Donc, ça vaut la peine de se tourner un peu vers ce monde-là pour avoir une variété plus grande aussi pour notre événement.
Et côté invité, donc on mentionnait Patrick Sobral, Charlie Adler, c'est quoi justement peut-être il y a beaucoup de noms, vous avez toujours une pléiade, je pense pratiquement une cinquantaine d'auteurs, mais est-ce qu'il y a des noms qui
ressortent? Plus que ça. Au niveau des auteurs européens, cette année on a 16 auteurs, puis au niveau des auteurs québécois, si on pense auteurs établis et auteurs émergents, on a près de 80 auteurs québécois.
Donc c'est une centaine d'auteurs.
Ouais, donc c'est vraiment un rendez-vous incontournable pour le milieu, puis je pense que c'est ce qu'on a bâti au fil des ans aussi. Là.
Et donc, autant des incontournables européens comme les Sobral, comme les Arthur Depin, les Jouvray.
Oui, les gens qui ont participé à la résidence aussi de création, c'est le Québec-Bordeaux. C'est la cinquième anniversaire cette année. Donc, des gens comme Laureline Mathieu aussi, Vincent Perriot, Jérôme Davio qui reviennent nous visiter. Cromwell, qui est de retour aussi cette année, qui était présent l'an dernier. On a les gens de Lyon, donc tu faisais mention, Olivier et Jérôme Jouvray. Aussi, ben, au niveau des Québécois, on a tous les genres. Je veux dire, on a que ce soit Michel Rabagliati, Philippe Girard et les autres auteurs qu'on connaît dans la bande dessinée plus personnelle, des gens comme François Méville-Deschênes aussi, Denis Rodier, Jacques Lamontagne, la plupart des auteurs québécois actuels seront présents, là.
Et justement, mais côté festival, on incite toujours les gens à se rendre à fbdqf.com.
fbdfq.com,
voilà. Et voir un peu, bon, c'est déjà entamé, déjà plusieurs rencontres d'auteurs qui ont été faites, puisque c'est en marche depuis mercredi. Mais pour la fin de semaine aussi, il reste beaucoup de tables rondes, beaucoup de rencontres, parce que on a l'impression que vous voulez que ce soit beaucoup aussi un lieu d'échange, un lieu de discussion, là.
Oui, bien, le festival comme tel bâtit une programmation sur semaine pour les groupes scolaires, parce que mercredi, jeudi, vendredi, c'est essentiellement des groupes scolaires qui sont là deux jours. Il y a les rencontres d'auteurs, parce qu'on trouve très intéressant de montrer aux jeunes ce qu'il y a dessous la bande dessinée, donc eux rencontrent les auteurs, posent des questions. Durant le week-end, on tombe vraiment à un mode différent, c'est-à-dire démonstration avec des artistes à l'œuvre. Donc, samedi, dimanche, toute la journée, il y a des artistes, des auteurs qui vont venir faire des dessins en direct à l'atelier BD. Sinon, c'est beaucoup des tables rondes. Il y a quelques rencontres d'auteurs aussi. Donc, on tombe vraiment en mode discussion sur la bande dessinée.
Et comment choisissent un peu les thèmes, les éléments qu'on met de l'avant, justement, dans ces tables rondes-là?
Bien, étant donné qu'on baigne un peu dans la bande dessinée tout au long de l'année, des fois, il y a des éléments qu'on ressort, qu'on aime traiter durant ces tables rondes-là. Il y a aussi, on profite de la venue. Par exemple, cette année, c'est les 30 ans des débrouillards. Donc, on fait une table ronde avec les gens des débrouillards. On fait
qui ont marqué la BD au Québec, des scientifiques, notamment.
Oui, mais qui a permis à des gens comme Jack Goldstein, Réal Godbout et tout ça d'être publiés de façon très régulière. Jack Goldstein est là depuis les débuts et c'est son métier, les débrouillards, là.
Et donc, ça permet d'explorer différentes facettes. On se présente, c'est toujours convivial, un peu comme les séances de dédicace aussi, qu'il y en a énormément, je veux dire, tous les jours.
Oui, bien, les séances de dédicace, c'est une chose à part, parce que pour certains auteurs, comme Charlie Adler, notamment Patrick Sobral ou Guarnido, il faut prévoir un peu de temps d'avance pour venir chercher une dédicace de ces auteurs-là. Oui, il y a des fils, c'est clair. Mais pour les tables rondes, les ateliers de dessin, les artistes à l'œuvre et tout ça, simplement à se présenter, puis il y a des chaises, venez vous asseoir, venez prendre, faire un petit bout de temps, pas nécessairement besoin de rester toute la table ronde, mais au moins venir faire un petit tour pour voir ce qui se dit.
Et la table ronde sur les débrouillards, ça, c'est samedi?
Samedi, en milieu de journée, je crois, vers 11h.
Et encore, il y en a beaucoup. Là, si on y va avec quelques exemples de thèmes, vous allez nous parler donc des nouvelles maisons d'édition, des nouvelles formules d'édition, du hockey, la bande dessinée, la BD jeunesse aujourd'hui, la BD historique, des regards sur Lyon, sur Bordeaux, BD animation, BD jeux vidéo. Donc, de plus en plus, il y a un peu d'incontournables et d'associations qui se font aussi du milieu de la BD vers d'autres milieux artistiques, dans le fond.
Cette année, on est partenaire au Frima Studio. Il y a une particularité, c'est que Frima Studio a plusieurs auteurs de bande dessinée qui travaillent chez eux. Des gens comme Éric Asselin, Liftand, André Cadic, Solman, il y a Valérie Morancy qui en fait aussi, Bruno Serré et d'autres. Donc, il y avait vraiment une association naturelle avec eux pour explorer ce thème-là, parce que, je dirais, la bande dessinée peut nourrir le jeu vidéo, et le jeu vidéo peut nourrir la bande dessinée, donc c'est ce qu'on va explorer lors de la rencontre.
Et sur le sujet des nouvelles maisons d'édition, évidemment, on a vu Pawpaw Net, il y a Colosse qui est toujours axé dans les petits livres. La Mère Instant, ça, qui fait son apparition au festival cette année, littéralement.
Oui, donc, c'est ça qu'on veut voir aussi un peu, comment ces gens-là se lancent dans la bande dessinée, parce qu'ils font pas de la bande dessinée facile, non plus. Papa a réussi vraiment très bien se placer avec ses bandes dessinées. Je veux dire, ils ont lancé hier soir le deuxième tome de Motel Galactique de Pierre Bouchard et Francis Desharnais. Donc, c'est toutes des choses qui sont vraiment intéressantes et qui trouvent leur niche au Québec. Donc, c'est vraiment se lancer dans la bande dessinée avec des formules différentes. Puis c'est ce qu'on veut voir avec les gens de Mauvaise Tête.
Oui, qui font aussi leur lancement dans le cadre du festival.
Oui, donc ce soir, le vendredi, ils font le lancement dans le cadre de la soirée du 25e au Musée de la Civilisation. Donc, on attend près de 400 personnes ce soir au Musée de la Civilisation pour le spectacle, qui est déjà complet malheureusement. Mais pour la portion publique, il y aura le lancement de la Mauvaise Tête qui va s'effectuer à ce moment-là.
et qualité motel aussi. Il faut dire, ben, si c'est complet, c'est qu'il y a, un intérêt quand même. En fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est un projet, un side project, comme on dit en bon québécois, de la formation Mister Valeur.
Exactement. Donc, ils profitent eux aussi de la soirée pour faire leur lancement à Québec de leur nouvel album, Motel California. C'est un album rempli de collaborations. Toutes les pièces sont une collaboration avec des gens comme Soul Cold, Yann Perrault, Lipsia Isaac et Karim Ouellet de Québec aussi. Donc, ils viennent présenter ça, faire une performance, 90 minutes de musique électro, ça va être assez intéressant.
Et qu'est-ce que vous amenez au festival à cibler ce groupe-là plus spécifiquement?
Bien honnêtement, je les ai vus cet été à Lens-Saint-Jean. Je trouvais que c'était un spectacle absolument festif et c'est ce que je recherchais pour le festival. Donc, j'ai
fait contact.
Exactement. Donc, je suis rentré en contact avec eux. Ça s'est fait très naturellement.
Et j'entends en fait Musée de la civilisation. Vous allez y être aussi pendant le week-end. Est-ce que c'est un nouveau volet? En fait, vous êtes toujours sorti un peu du salon du livre. Il y a toujours beaucoup d'activités périphériques. On y reviendra tout à l'heure. Mais le musée, ça semble s'être intensifié un peu de ce côté-là.
Oui, mais on est présent au Musée de la civilisation depuis 4-5 ans sous forme de projection principalement ou d'exposition. Puis cette année, avec l'exposition Samouraï qui a débuté récemment, c'était vraiment le moment de débuter une nouvelle collaboration puis de bonifier ça. Donc, on a, oui, les projections durant tout le week-end de samedi dimanche. On a aussi des animations manga avec les gens de Kiowa, Québec. Donc, si vous voulez aller avec vos enfants, votre famille, dessiner manga, apprendre des trucs, c'est vraiment la place toutes les après-midi, samedi et dimanche. On a aussi le samedi soir, l'impro BD, l'événement Burkett en direct. Donc, on a vraiment bonifié notre programmation-là. Puis, c'est une des volontés du festival aussi de s'étendre un peu partout et développer une programmation. C'est pour ça que la programmation est si généreuse aussi cette année.
Et justement, on reviendra sur la générosité de cette programmation dans quelques instants. Thomas-Louis Côté, directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, on vous garde avec nous quelques instants. On garde avec nous,
tutoyons-nous.
Tutoyons-nous comme d'habitude. Là. On garde quelques instants. On se retrouve donc dans deux petites minutes.
Je ne bouge pas.
Du 11 au 15 avril, laissez-vous tenter par quelques bulles à l'occasion du 25e Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Rencontres, découvertes et phylactères sont au menu de cette édition anniversaire. Que ce soit au Salon du Livre, au Musée de la Civilisation, au Cercle ou dans les divers lieux culturels participants, près de 100 auteurs d'ici et d'ailleurs seront à Québec pour participer à une programmation généreuse et éclatée. Visitez le fbdsq.com pour découvrir toutes les activités. Le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, le rendez-vous du 9e art de la capitale.
Ah, te voilà!
Que faites-vous en ce moment? Vivre intensément le moment présent serait d'une certaine façon vivre l'éternité. Vous en doutez? Le trio XL3, Alain Audet, Denis Barry et Régent Julien, vous invite le samedi 14 avril 20h à la salle multi du complexe Méduse à son concert pour le moment présent. XL3 jouera l'intégralité de son album « Est-ce que tout vous apparaît normal ?» Samedi 14 avril 20h à Méduse. Billets en vente à la porte le soir du spectacle ou en réservant à XL3 Trio à Hotmail.
Billets en vente chez Sillon le Disquaire. Une collaboration de CKRL.
Fun, soul, blues, afrobeat. Le vendredi 18h30, les rythmes de Jean-Baptiste Duvignon et Lou Bendy font exploser CKRL. C'est 100% dynamite.
Connaître et tout savoir sur le Salon du Livre de Québec, écoutez Ancrage sans frontières.
Biographie.
Roman.
Conférence.
Polar.
Littérature jeunesse.
Nouvelles.
Livres sur l'art. Rencontre d'auteurs.
Co-animé par Michel Laïzola et Denis Lelièvre, du 11 au 15 avril de midi à 13h30.
Ancrage sans frontières. Biographie. Roman. Polar. Nouvelles.
Vous aimez ce que vous entendez et vous aimeriez encourager votre radio préférée? C'est simple comme bonjour. Soutenez votre radio favorite en faisant un don en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton sécurisé PayPal ou téléphonez au 418-640-2575. Un petit geste d'amitié pour une grande radio.
89.1.
Les gens autour de moi ne comprennent pas comment j'ai pu arriver à justice.
Québec.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418 529 3829.
Sur CKRL 89.1, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et on est toujours en compagnie du directeur général du Festival de la bande de dessinée francophone de Québec, Thomas-Louis Côté, qui est avec nous et en plein cœur d'un marathon. Ce que je pense, on disait tout à l'heure, c'est une bonne préparation. Alors, c'est un marathon. Là.
Effectivement. On a beaucoup de choses, donc ça n'arrête pas.
Et notamment, en fait, la bande dessinée, c'est quelque chose de visuel, c'est quelque chose qui peut s'exposer. Et il y a une pléiade d'expositions. Les vernissages ont eu lieu hier. On peut les voir cette fin de semaine un peu partout. On peut peut-être faire un tour rapide de ce qu'il y a, notamment parler des liens Bordeaux-Québec. Il y a une exposition à Gabriel Leroy, Regards croisés, qui a été déjà présentée à Bordeaux.
Effectivement, ça a été présenté lors de Bord d'Images, qui est un événement à Bordeaux. Cette exposition-là est un regard croisé entre les auteurs qui ont fait la résidence de création Québec-Bordeaux. Donc, ce qui a été demandé, c'est aux auteurs de Québec de reprendre une planche des auteurs bordelais et, à l'inverse, des auteurs bordelais de reprendre une planche des auteurs québécois.
Donc, c'est toujours intéressant de voir de quelle manière un auteur avec son style bien défini reprend l'autre style, dans le fond.
Oui, bien, c'est vraiment souvent les duos d'auteurs ne sont pas faits en fonction de leur style, mais bien en fonction du dossier qui a été déposé au moment où ils ont été sélectionnés. Donc, les styles sont vraiment à l'opposé parfois, et ça fait quelque chose de vraiment intéressant au final.
Et si on continue à tourner, peut-être d'abord dans les bibliothèques, il y a la bibliothèque Aliette Marchand sur le boulevard Pierre-Bertrand qui, elle, présente une exposition en lien avec l'événement Lyon BD sur la série Lincoln.
Oui, bien c'est la première fois qu'on présente une exposition en dehors du centre-ville de Québec. À Québec, du moins, parce qu'on en avait présenté une sur la Rive-Sud il y a 2 ans. Mais pour Vanier, c'est la première fois qu'on s'immisce dans le fond dans Vanier pour présenter une exposition. Et c'est sur la série Lincoln des frères Olivier et Jérôme Jouvré.
Une série très primée, là.
Très primée, une série western. Et donc, la bibliothèque est près d'une école secondaire aussi. Pour nous, c'était un match parfait, dans le fond, pour présenter cette exposition-là. C'est vraiment, vous allez voir un panorama, dans le fond, de la série, au travers de planches, de croquis, aussi des œuvres d'amis de la série, donc des gens comme Giraud, Guarnido et tout, qui ont refait une illustration de Lincoln. Donc, c'est vraiment un portrait de la série, là.
Au Collège des Jésuites, sur René Lévesque, là, c'est une exposition consacrée au blog d'ici.
Oui, mais on tenait à présenter les blogs québécois, parce qu'en bande dessinée, c'est peut-être pas évident de montrer les blogs à l'extérieur des ordinateurs. Donc, on a fait une sélection de différents blogs québécois. On a été chercher des planches, des illustrations dans ces blogs-là, et on présente ça, dans le fond, à la bibliothèque du Collège des Jésuites, dans l'optique d'amener les gens à découvrir ces sites-là. Parce que, oui, la bande dessinée est imprimée et très intéressante au Québec, mais ce qui se fait en blog aussi.
Est-ce qu'on a quelques exemples de blogueurs?
Ben, des gens comme Kayleen Johnson, on peut penser aussi à Pascal Colpron, qui a été publié à La Pastèque, mais qui au départ était sur son blog. Boom, les boomeries, tout ça. Donc, c'est des choses qui sont vraiment variées et très, très intéressante.
Et nécessairement, le changement de format va donner une autre dynamique à la planche qui est réalisée pour le blog, qui sont souvent quand même réduites un peu quand ils arrivent sur le web.
Là. Oui, donc là, dans ce cas-ci, on a agrandi souvent des planches, on a retravaillé pour redisposer certaines planches, mais ça fait quelque chose d'assez varié, mais encore là, ça dresse un beau portrait de ce qui se fait dans les blogs au Québec actuellement.
Et côté Québec, à la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste, je pense que c'est un peu un incontournable, la BD québécoise, une exposition qui est dédiée à Red Ketchup. Beaucoup d'activités autour de Red Ketchup, d'ailleurs.
Oui, Red Ketchup qui célèbre son 30e anniversaire et en profite également pour lancer l'intégrale de Red Ketchup. L'exposition Red Ketchup est peut-être la plus grosse cette année au festival. On a des originaux, on n'en plus finir de cette série-là. Il y a près de 70 pièces qui sont montrées. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire le détour. Si vous avez été des amoureux de la série, si vous avez apprécié Red Ketchup, allez faire un tour de voir les originaux de Réal Godbout. C'est absolument fascinant.
Et sinon, dans des galeries aussi, en fond, il y en a beaucoup d'expositions, là. En galerie, notamment à Morgan Bridge, c'est Le temps des siestes de Jimmy Beaulieu qui vient tout juste d'être lancé.
Bien, Jimmy Beaulieu a lancé hier, justement, jeudi, le nouveau livre, Le temps des siestes, qui est un recueil de croquis et de dessins, à savoir un peu érotique.
En lien avec son dernier livre aussi.
Exactement. Son dernier, finalement. Comédie sentimentale, pornographique. Et donc, ça, c'est encore là une sélection d'originaux, tu sais. De ce livre-là, un livre qui a été lancé aux éditions Alto, qui ne fait pas normalement de la bande dessinée, mais qui, encore cette année, parce que l'an dernier, on fait le Dragon Bleu, cette année, se lance avec un nouveau projet.
Et sinon, à Engramme, c'est une exposition de sérigraphie.
Oui, mais depuis ses débuts, dans le fond, le festival produit des produits dérivés, que ce soit des ex-libris ou des sérigraphies. On a travaillé beaucoup avec un sérigraphe qui s'appelle Pierre Réaume. Donc là, on s'est associé avec Engramme pour présenter justement une sélection des sérigraphies qui ont été produites durant le festival.
Et on parle d'auteurs, de...
Bien, on essaie à chaque fois, parce qu'on n'en a produit pas tant que ça. Sur 25 ans, il y a peut-être une dizaine de sérigraphies qui ont été faites grand format, il y a 6 petits formats. On essaie de travailler avec les auteurs qui sont présents et qui ont quand même une certaine notoriété, parce que ça reste un outil commercial, un outil de financement pour le festival. Donc, on travaille avec des gens. Il y a eu des gens comme Moebius, Bilal, Mézières, aussi Batem et d'autres. Guarnido aussi, qui est là cette année, avec qui on avait fait une sérigraphie lors de sa dernière visite. Tardy, on avait fait une sérigraphie aussi lors de sa visite. Donc, c'est vraiment très varié dans les styles, mais ça, c'est de voir la qualité de réalisation des sérigraphies de Pierre Réaume, c'est assez incroyable.
Oui, surtout, en fait, avec les noms qui sont évoqués, déjà au niveau graphique, on peut s'attendre à quelque chose
de très beau.
Et de style assez varié.
Et de style varié, oui.
Et dans un tout autre registre, Thomas-Louis, côté, il y a des expositions dans les bars aussi, et notamment il y en a une qui est toute désignée côté lieu, qui s'appelle « Question d'étiquette » à la Corrigan, en fait. De ce que j'en ai compris, l'équipe du festival a demandé à des BDistes de faire des étiquettes de bière, tout simplement.
Oui, mais dans une tradition d'exposition collective qu'on a au festival, c'est-à-dire depuis que moi je suis là, de loin, on fait toujours des expositions collectives à chaque année, souvent au départ en association avec Fanzine Bidon, qui n'existe plus, mais on a fait des choses au cercle un peu partout. Cette année, on a décidé de faire une exposition de fausses étiquettes de bière. Donc, à la brasserie Corrigan, on a invité des auteurs du Québec et de l'extérieur du Québec à participer et à créer une fausse étiquette de bière. La contrainte était de garder le style des étiquettes de bière, donc les mêmes informations, les mêmes formats ou à peu près, et de s'amuser, donc de faire des choses drôles, de faire des choses déjantées un peu.
Il y a des belles boutades là-dedans.
Oui, il y a des très belles choses, et la réponse a été tellement bonne qu'il y en aura une deuxième aussi.
Et sinon, autre exposition, en fait, vous en avez à la cuisine, au cercle, chez Phylactère également, donc qui complète
le cercle. À la cuisine, c'est une exposition de portraits d'auteurs. C'est Marc Tessier, qui est un auteur lui-même et qui travaille pour Trip, normalement, une petite maison d'édition, dont il est éditeur, a toujours pris des photos de ses collègues et les retravaillé un peu par l'ordinateur. Donc, on a décidé de lui demander de faire une sélection de ses préférés et de présenter. Donc, on a 18 portraits d'auteurs différents qui sont présentés au cercle. Pas au cercle, excusez-moi, à la cuisine. Au cercle, c'est le lieu de Lyon BD cette année. Donc, il y a plusieurs choses qui sont installées là en fonction de Lyon BD. Il y a l'exposition Mise en bouche qui avait été présentée au Musée des Confluences. Donc, c'est 10 planches qui ont été réalisées par des auteurs québécois et européens sur le thème de la nourriture. Donc, c'est ce qu'on présente dans l'aquarium du cercle. Et pourquoi je dis que Lyon BD est là aussi en force, c'est qu'on a des activités avec eux, notamment une bataille de dessin qui a lieu samedi.
Donc, c'est quoi une bataille de dessin?
C'est ce qu'on appelle, nous, les brunchs animés, c'est-à-dire de 11h à 1h, on vous invite à venir manger, prendre un brunch au cercle, que ce soit le samedi ou dimanche. Donc, les deux jours, il y a le brunch animé, avec un menu spécial Lyon, d'ailleurs. Mais le samedi, ce qui est particulier, c'est qu'il va y avoir 4 dessinateurs du Québec qui vont travailler au Cercle, mais il y a aussi quatre dessinateurs lyonnais qui vont travailler en direct de Lyon. Donc, eux font un 5 à 7 pendant que nous, on fait un brunch et il va y avoir une bataille de dessins via Internet qui va être présentée sur les écrans du Cercle.
Et d'ailleurs, si on reste au Cercle, Thomas Louis, donc il y a cette activité-là de 11h à 13h, donc ce brunch animé. Il y en a un autre aussi.
Le dimanche.
On en parlait avec Julien Paré-Sorel tout à l'heure, en fait, le dimanche, avec l'équipe de Front Froid.
Exactement.
Donc, beaucoup d'activités-là. Il y a des conférences aussi au Cercle, en lien avec Lyon, notamment une projection panoramique là, d'un record du monde qu'ils ont battu.
Oui. Donc, Lyon a réalisé la plus longue bande dessinée au monde, donc 1000 quelques mètres, 1,1 km, disons, qui était 1000 planches de 1 mètre par 1 mètre qui ont été mises bout à bout le long de la Saône pour battre le record qui appartenait à l'Inde. Donc, cette bande dessinée-là, on a repris les images et on la défile, dans le fond, en continu sur les écrans du Cercle.
Et donc ça, c'est en continu pendant le festival,
exactement.
Évidemment, donc on a simplement allé faire un tour, aller dans une des diverses activités. Et également, une conférence, un petit mot sur une conférence qui s'appelle Building Stories, l'univers de Chris Ware. Ça, c'est samedi à 13h30.
Oui, ben, on a la chance d'avoir, durant le festival, la présence de Jacques Sanson, qui est un spécialiste de la bande dessinée, mais spécialiste aussi particulièrement de Chris Ware. Il est co-auteur d'un ouvrage avec Benoît Peters, qui est une sommité en bande dessinée, sur Chris Ware, donc l'univers de Chris Ware, Building Stories. Et il vient à Québec, dans le fond, présenter une petite conférence sur l'univers de Chris Ware. Donc, si c'est un auteur que vous appréciez ou si c'est un auteur que vous voulez découvrir, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Ça va être plein d'exemples, puis ça va être une très belle rencontre.
Et évidemment, on le rappelle, en fait, tout ça, c'est sur fbdfq.com. Et également, on parlait de la grosse soirée du vendredi soir au Musée de la civilisation, donc de ce soir. Il y en a une autre aussi demain, samedi, 14 avril. À partir de 19h30, une autre grosse soirée festive.
Oui, mais les portes ouvrent à 7h. Donc, à 19h30, c'est Burquette en direct. Une présentation de Francis Dernay qui va dessiner en direct une illustration de Burquette en lien avec l'actualité. Et les gens vont pouvoir voir en direct sur Internet, choisir leur point de vue du dessin aussi. Donc, c'est une activité qui est en lien avec l'ONF, parce que Francis a transposé en dessin animé son personnage Burquette, et c'est vraiment quelque chose d'assez unique qui s'est fait une fois jusqu'à maintenant, c'était au Rendez-vous du cinéma québécois. Donc, c'est avec Fred Lebrasseur, musique en direct et tout, quelque chose d'assez intéressant.
Et Fred reste là pour l'impro BD.
Exactement. Donc, suit à 8h, 8h15, l'impro BD. Donc, trois matchs d'impro avec quatre équipes qui mélangent 16 joueurs d'impro et 8 dessinateurs. Donc, vraiment un concept assez unique, puis qui va bien marier justement le dessin et l'improvisation.
J'ai bien hâte de voir, j'ai géré comme maître de cérémonie à cette occasion-là. Il y a 16 joueurs, 8 dessinateurs avec le dessin derrière et comment ça va se métisser avec l'impro. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, mais oui. C'est du jamais vu à Québec.
C'est du jamais vu à Québec, puis c'est vraiment le dessin devient une contrainte pour l'improvisation et l'improvisation devient une contrainte pour le dessin. Donc, on essaie, et la musique embarque, il lit tout ça, mais ça va être vraiment quelque chose d'unique, une belle expérimentation à laquelle tu collabores d'ailleurs.
Oui. Alors, ça sera à découvrir aussi. Et, mon Dieu, en fait, il y en a plein d'autres activités comme ça, en plus que c'est déjà commencé. Donc, en fait, je pense qu'on invite les gens, au bout du compte, à joindre à ce marathon, à faire le dernier sprint avec la gang du festival.
Oui. Passer une fin de semaine BD pour le 25e du festival. Je vous le souhaite, puis je nous le souhaite aussi, là, que vous soyez là avec nous.
Thomas Louis, on souhaite une bonne poursuite de festival à toi.
Merci.
Et je rappelle l'adresse courriel, l'adresse web, en fait, fbdfq.com. Également, le programme, donc, en version papier, que j'ai en main avec une superbe affiche, d'ailleurs, qu'a réalisé Pascal Girard, qui est disponible un peu partout.
Un peu partout, puis actuellement, est disponible dans les autobus du réseau du RTC. Donc, vous avez simplement à récupérer un voir et le programme est à l'intérieur.
Puis en plus, il y a plein de BD dedans.
C'est sympathique.
Donc voilà. Thomas Louis Côté, directeur général donc, du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, merci.
Merci à toi.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Et donc nous, on prend une autre petite pause musicale. On écoute un autre extrait de l'album de qualité Motel qui sera lancé ce soir au festival. Au retour, notamment, on va vous revenir avec les résultats des prix BDIS Causa. Yum-ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
this in school. Yum da da da, yum da da da, yum da 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 da, yum da da da, yum da da da, yum da 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 da, yum da da da, yum da da da, yum da 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 da, yum da da da, yum da da da.
Et voilà, petit extrait de Qualité Motel Piscine Pool avec, vous l'avez peut-être reconnu, So Cold, Vietnam, quand même pas mal de fois au départ. Donc, c'était assez clair que c'était lui qui collaborait. Ah ben voilà, donc un autre petit extrait qu'on vous propose. Un sympathique album, là, clairement, là, si vous l'avez eu l'occasion de tendre l'oreille vers tout ça. Et avant la pause, on annonçait les résultats des prix bédéistes. Causeur, on avait commencé l'émission avec les finalistes. Alors, ben, je vous les donne, ces résultats, et je dois vous dire, en fait, j'en profite pour le mentionner, une très belle expérience de mon côté, puisque j'ai eu le vif plaisir de collaborer à ce jury qui réunissait plusieurs fanatiques de BD, spécialistes de BD de Québec, des gens de un peu toutes les librairies, Phylactère, L'Imaginaire, Pantoute, des chroniqueurs qu'on entend ici à CKRL également, Stéphane Gravel, Pierre Blais, entre autres, ainsi que moi-même. Alors, c'est véritablement un plaisir, là, cette collaboration, et une belle année également pour se lancer dans ce type de jury, puisqu'à mon sens, 2011 aurait été une belle année côté BD. Et parallèlement, on le mentionnait lors de l'entrevue où on avait présenté les finalistes il y a quelques semaines, le but aussi de tout ça, ben, c'est de vous proposer des lectures. Si ça se retrouve dans cette liste de quoi à peu près 16 albums, eh ben, c'est que ces 16 albums-là méritent d'être lus. Mais évidemment, il y en a plusieurs autres qui méritent d'être lus, mais ceux-là, on fait le tour du jury. Du moins, ont été approuvés par un peu tout le monde. Alors, des belles propositions de lecture, mais de ça, évidemment, faut aller chercher des gagnants. Alors, le prix Réal Filion, donc je rappelle, auteur québécois, scénariste, dessinateur, qui s'était le plus illustré avec son premier album professionnel, eh bien, il a été donné à Fred Jourdain, auteur du Dragon Bleu chez Alto. Première expérience BD, et on le disait d'entrée de jeu, on le redira, des dessins absolument superbes qu'il a offerts dans ce volume. Le Grand Prix de la Ville de Québec, donc meilleur album de langue française publié au Québec, eh bien lui, il a été remis à la BD Le Fond du Trou, des éditions La Pastèque, BD de Jean-Paul Hyde. Vraiment découvrir pour le concept un beau défi que s'est donné Hyde, et à mon sens, un défi qu'il a surrelevé de belle façon avec cette BD, qui nous renvoie également dans ce qui est son travail des années 70-80 avec Jérôme Bigras, donc un retour un peu à l'ambiance de Crow, mais bien mise aussi au goût du jour et au style BD actuel, donc vraiment une BD à découvrir si ce n'est déjà fait. Le prix Albéric Bourgeois, qui est le meilleur album de langue française, publié, lui, à l'étranger par un auteur québécois, dessinateur ou scénariste, ben, c'est difficile de passer à côté, évidemment. Là, il s'agit des Chroniques de Jérusalem de Guy Delisle, publié chez Delcourt. Excellent, excellent album du grand Guy Delisle. Vraiment, en fait, cet auteur, ce bédéiste, a le don pour faire ses chroniques de voyage, tout particulièrement, là, autant, donc, c'est Pyongyang, Shenzhen, les chroniques birmanes étaient intéressantes, autant ses chroniques de Jérusalem sont extrêmement satisfaisantes également côté lecture. Et enfin, le prix Maurice Petit-Didier, donc c'est le coup de cœur du jury, pour un album francophone publié à l'étranger. On dit coup de cœur parce que, évidemment, je pense que je parle pour tout le monde dans ce jury-là, il n'y a personne qui avait lu tous les albums qui ont été publiés, donc on ne peut pas dire, voilà, c'est effectivement le meilleur album en langue francophone dans le monde. Donc, dans les albums qui ont été lus par les personnes qui composaient le jury, eh ben c'est le coup de cœur collectif, donc qui va à Abibi de Craig Thompson, un album initialement publié en anglais, mais qui a été traduit en français, qui vaut la peine d'être lu, que ce soit en anglais ou en français d'ailleurs, là, les dessins qui sont absolument superbes, un album qui, à mon sens, là, à tous les niveaux, est très, très, très réussi. Alors voilà pour les prix BDIS Causa. Et petite mention, passage également, si on reste dans la programmation du festival, je voulais en parler, on devait s'entretenir avec quelqu'un d'Antitube là-dessus, malheureusement, les circonstances feront qu'on ne pourra pas en discuter, mais je tire quand même votre attention, c'est en dernière page d'ailleurs du programme du festival, et donc samedi et dimanche, quelques sélections de courts-métrages, notamment à 13h samedi, vous avez Arthur Depin et les productions métronomiques. Arthur Depin, c'est lui qui est derrière notamment la série Zombilenium, la série La Marche des Crabes. Vous savez évidemment que La Marche des Crabes, ça a été d'abord un court-métrage qui a été adapté par la suite en BD, d'ailleurs un court-métrage que vous pouvez voir sur YouTube. YouTube. Ça vous donne une idée également du travail de Pain. L'auteur va être sur place pour discuter avec le public du studio et des œuvres qui vont être présentées. Alors, c'est toujours intéressant. Donc, ça, c'est à 13h samedi. Ça va être suivi à 14h30 d'une présentation du film Shogun Assassin, un film de 1980. Et dimanche, eh bien, on parle notamment du classique Metropolis, qui est peut-être un peu incontournable de Rintaro. Ensuite, ça sera suivi à 15h de Tekken King Crete et à 19h30 de Sword of Desperation. Les résumés, comme je le disais, qui sont dans la programmation du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Alors voilà pour ces éléments et on retourne avec un dernier extrait de la formation qualité Motel Vol de nuit avec Steffi Choc. De qualité Motel, qui était notre sélection musicale pour cette semaine. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez suivre La Vie en BD sur le site Facebook, notamment les podcasts, les émissions, quelques informations également sur le milieu de la BD au Québec et ailleurs. Donc Facebook, c'est La Vie en BD-CKRL 89A. Je vous rappelle également qu'on a un blog pour cette émission, donc lavieenbd.wordpress.com, et sur lequel, ben, notamment, il y a les podcasts des différentes émissions et quelques autres informations également. Pour terminer, en fait, on fait quelques clins d'œil, tiens, des albums sur lesquels je suis tombé récemment. Il y a un autre album, en fait, encore là, je disais au début quand je parlais de la série des Brigades du Temps, le genre de truc sur lequel on tombe, qui nous surprend agréablement, et encore là, pas une BD non plus qui réinvente le monde, mais qui est quand même efficace. Tombe 24 de la série Vasco. En fait, c'est ce qui est particulier, évidemment, c'est que Gilles Chaillet, donc l'auteur et créateur de cette série-là, s'est récemment éteint. Mais par contre, il avait laissé à son épouse et coloriste Chantal de Fachel une grosse poignée de scénarios, certains qui sont déjà découpés, et c'est pas lui qui faisait non plus le dessin. Donc c'était Frédéric Toublant qui dessinait Vasco depuis le tome 22, donc qui a pris le soin, dans le fond, de reprendre avec l'épouse de M. Chaillet cette série-là pour donner vie, dans le fond, au dernier tome écrit par l'auteur créateur de Vasco. Donc, les derniers tomes de cette série-là. Alors, ça, c'est pour la petite histoire humaine derrière la série. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Ben, d'emblée, en fait, c'est une série de 24 tomes, mais ce tome-là et sûrement d'autres de la série qui tiennent en eux-mêmes. Donc, l'histoire, on n'a pas besoin de suivre la série depuis un bail. Là, c'est un one-shot, comme on dit en bon français. Donc, c'est une série historique dans la période médiévale. On suit, dans le fond, les aventures d'un banquier, du neveu d'un banquier, en fait, qui va chez les mauvais payeurs pour récupérer des paiements. Évidemment, comme dans toute bonne série, ben, il y a des aventures qui s'ensuivent. Dans ce cas-ci, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on prend le temps d'établir les choses à tout le monde au début. Bon, pour la fin, on y reviendra, c'est peut-être un peu moins efficace, mais la mise en place du récit, j'ai trouvé très intéressante. En fait, le personnage principal de la série qui arrive seulement plusieurs planches étant faites, donc on a vraiment une exposition de la situation, donc un village où tout va mal, on dirait qu'il y a pratiquement une malédiction qui s'est écrasée sur cet endroit-là, donc ça va pas bien de manière générale. Et donc, on va découvrir ensuite, en compagnie de Vasco, qui lui aussi est extérieur, un peu à l'image du lecteur, à toute cette situation-là, mais on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui explique cette situation, et évidemment, des révélations, des twists, des rebondissements, donc pour créer quand même un petit suspense à travers tout ça. Donc, on peut une enquête. Donc ça, c'est le bon côté en faire ici, qui est quand même bien rythmé, bien bâti. Par contre, ce que je reprocherais à cette BD-là, ce qui fait que la fin est peut-être moins intéressante justement que le commencement, c'est qu'il y a énormément d'expositions, comme si justement on avait quand même manqué de planche pour mettre tout en place, tous les éléments de compréhension. Donc dans le fond, ce qui fait qu'on a pratiquement deux pages à la fin où c'est du texte avec quelques images, mais des bulles à la Achille Talon, là, avec beaucoup, beaucoup d'informations pour expliquer le complot qui est derrière tout ça. Reste que le chemin, pourtant, aurait quand même été assez clair pour qu'on réussisse à saisir ce qui se passe sans nécessairement être obligé de nous mettre et de nous plonger dans une avalanche de mots à la fin. Bon, c'est le point négatif, mais reste que, comme je le disais, le chemin pour s'y rendre est classique et bien fait. Il y a une belle maîtrise de l'histoire. On sent l'expérience côté scénarisation et ce qui fait aussi que ça fonctionne. Donc, pas une BD qui réinvente la BD, mais une BD solide, acceptable, intéressante, donc qui pourra peut-être aussi plaire à un public jeune et à un public aussi qui a envie de quelque chose quand même de léger, donc un petit suspense léger en ce début de mois d'avril. Alors voilà pour ces commentaires et nous, c'est ainsi que l'émission se termine. On se retrouve la semaine prochaine avec, je l'espère, beaucoup de gens en notre compagnie et notamment il y aura Jimmy Beaulieu et Ariane Denommé qui seront de passage avec nous. Alors ben voilà, on laisse la place à l'équipe de 100% Dynamite et nous, on se retrouve vendredi prochain à compter 17h30. C'était Raymond Poirier au micro et ça a été un plaisir d'être avec vous ce vendredi.